Les matins de France Culture.
La revue de presse internationale, bonjour Thomas Cluzel.
Bonjour Guillaume.
Et ce matin, tout d'abord, sortir du mutisme.
Oui, rares sont les journaux à y consacrer sinon leur première page, tout le moins quelques lignes. Le silence radio est même assourdissant et pourtant, le naufrage dimanche dernier du pétrolier iranien Shanxi en mer de Chine orientale pourrait provoquer une catastrophe écologique majeure. Pendant plusieurs jours, nombre d'images ont certes circulé, notamment grâce aux médias d'État chinois, lesquels ont diffusé des vidéos spectaculaires du navire en perdition. Mais depuis que le mastodonte gît au fond de l'eau. Pas un mot sur les conséquences possibles du désastre. Sauf que les chiffres sont là. À Pékin, sur la chaîne d'information continue CGTN, un expert prévient d'ores et déjà que les opérations de dépollution pourraient nécessiter des dizaines, voire une centaine d'années. Et puis dans les colonnes du New York Times, un spécialiste des marées noires de l'université de l'Alaska évoque lui le plus gros rejet de condensats dans la nature de toute l'histoire du pétrole. Or, les condensats sont des hydrocarbures extrêmement légers et c'est ce qui explique qu'une fois rejetés en mer, ils ne forment pas une nappe de pétrole caractéristique des marées noires. En revanche, ils génèrent sous l'eau un panache d'hydrocarbures invisibles depuis la surface mais qui n'en demeure pas moins particulièrement toxiques pour la faune et la flore. Et c'est là sans doute que réside en partie le blackout médiatique autour de cette catastrophe, car la région est utilisée comme terrain d'hivernage par de nombreuses espèces comestibles courantes. Et puis autre indice non négligeable, susceptible d'expliquer là encore ce phénomène d'autocensure, note le temps, la zone en question se trouve à proximité d'un champ gazier exploité par la Chine et à l'origine d'un important contentieux territorial entre Pékin et Tokyo, de quoi expliquer probablement l'absence de commentaires, notamment de la part du gouvernement nippon, pourtant connu pour ses prises de position agressives face aux visées territoriales de son voisin chinois.
Et puis sortir du mutisme, là encore, à tous ceux qui doutaient que les effets de la crise de l'Union européenne sont monumentaux, il suffit de regarder le nombre de manifestations partout en Europe, Thomas.
Oui, en Grèce, tout d'abord, la population ne décolère pas après que les députés ont entériné cette semaine de nouvelles réformes budgétaires réclamées par les créanciers en échange d'un déblocage de nouvelles tranches d'aide financière. La nouvelle loi restructure notamment les allocations familiales et restreint le droit de grève en relevant de 33 à plus de 50% le seuil de voix nécessaire dans une entreprise pour débrayer. Aussitôt, le mouvement de contestation a provoqué d'importantes perturbations dans les transports, les écoles et les hôpitaux, raconte le quotidien et Kathimerini. Même la terre s'est mise à trembler lundi avec un séisme ressenti jusqu'à Athènes. Une pilule amère à avaler aussi pour le parti dominant de la coalition au pouvoir, Syriza, né dans le creuset de la gauche radicale, sans compter que la casse sociale provoquée par l'amputation massive des retraites et de l'assurance maladie depuis 7 ans maintenant, rappelle le temps, continue de doper les scores du parti d'extrême droite obdoré, prompte à surfer sur la crise des migrants. En Autriche, à présent, là il y a longtemps qu'on n'avait pas vu cela, se réjouit le quotidien de Vienne, courir une manifestation a rassemblé plus de 20 000 personnes dans les rues de la capitale, c'était dimanche dernier, manifestation contre la politique antisociale du gouvernement, mais aussi contre les orientations du tout nouveau ministre de l'Intérieur, issu du parti d'extrême droite FPE, lequel s'est dit désireux, je cite, de concentrer les réfugiés dans des centres, d'où la question inquiète soulevée par le journal suisse Tagesanzeiger. Sur la politique migratoire, le jeune chancelier Kurz aura-t-il la force de tracer une frontière ou bien laissera-t-il les populistes de droite mener la barre?
Et puis Thomas, en Hongrie à présent, les 4 millions de mécontents et de dépossédés se manifesteront-ils enfin dans le pays?
Oui, c'est le cri désespéré lancé notamment cette semaine par l'hebdomadaire de Prague, HVG, car sans un véritable mouvement populaire, les chances de l'opposition de triompher du parti au pouvoir lors des prochaines législatives prévues en avril seront minces, sinon nulles. Alors c'est vrai, deux partis de gauche viennent de se mettre d'accord pour présenter un candidat commun, preuve que la diversité politique hongroise transparaît encore ça et là. Pour autant, se désole toujours l'hebdomadaire, s'il arrive de manière isolée qu'on entende un cri désespéré provenant d'un politique issu de l'opposition ou d'un citoyen, il ne faut généralement pas attendre bien longtemps avant que ce cri ne s'effondre. À l'inverse, le camp Orban, lui, a beau être minoritaire, il n'en demeure pas moins organisé, discipliné et loyal pour le meilleur et pour le pire, sans compter que la presse pro-gouvernementale cette fois-ci, à l'instar du quotidien Mayar Irlab, distille d'ores et déjà son venin. Si l'opposition prenait le pouvoir, dit-il, alors la Hongrie serait en proie à une crise des réfugiés. La question de l'immigration, c'est a priori sur ce thème que se jouera également la prochaine campagne électorale en Italie. Et pourquoi? Réponse, dit le Messaggero, repéré par le Courrier international. Tout simplement parce que c'est un thème payant en matière de voix. Tous les sondages s'accordent à le dire. Près d'un Italien sur trois votera pour des partis qui promettent de la rigueur sur la question migratoire. Et c'est ainsi notamment qu'on a pu entendre lundi sur les antennes de Radio Padania le candidat de la Ligue du Nord aux élections régionales de Lombardie invoquer la nécessité de préserver, je cite, la race blanche. Avant de se raviser, parlant de lapsus, d'où ce commentaire inquiet d'Il Foglio, espérons que ce dérapage ne soit pas l'avant-goût d'une campagne qui ne se jouerait que sur les émotions et l'exaspération. La politique a déjà l'air peu attirante, mieux vaudrait ne pas la rendre carrément repoussante. Enfin, preuve que décidément la question migratoire irrigue aujourd'hui toute la politique européenne. Hier, le ministre allemand de l'Intérieur a estimé que le nombre de demandeurs d'asile, pourtant en baisse d'un tiers l'an dernier, était encore trop élevé. Or, c'est justement sur cette question de l'immigration que le numéro 1 social-démocrate Martin Schulz peine aujourd'hui à apaiser les craintes de la base de son parti après l'accord préliminaire conclu avec les conservateurs. Selon Die Tageszeitung, le SPD a eu tort d'avaliser la limitation du nombre d'immigrés par an. Tous les progrès effectués durant les dernières années en matière de politique migratoire se retrouvent désormais anéantis, dit-il, par les plans de la Grande Coalition.